Bonjour tout le monde. Il vous manque, il nous manque d'être avec vous et nous attendons avec impatience que ce confinement puisse être terminé. Aujourd'hui, j'ai donné le titre à mon message, le cheminement d'une nouvelle naissance. Entre le virus COVID-19 et le confinement, nos vies ont été momentanément bouleversées. Nous sommes confrontés tous les jours au nombre de décès dans les divers pays et les effets néfastes sur l'économie du monde et aussi dans nos propres foyers. Je ne peux penser qu'à deux moments dans l'histoire où toute la population du monde entier était confrontée de la réalité, de la fragilité de la vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais expliquer les éléments qui mènent à une confiance salvatrice en Dieu pour maintenir et pour l'éternité. Jésus l'a dit tout simplement en cinq mots, il faut naître de nouveau. Pierre a dit, repentez-vous, puis soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous lire une partie du récit entre Philippe et l'Éthiopien dans Actes chapitre 8. Donc si vous voulez tourner dans vos Bibles à Actes chapitre 8, nous allons commencer au milieu du récit, dans le verset 32. Actes, chapitre 8, et verset 32. Et là, l'Éthiopien est en train de lire dans l'Ancien Testament une prophétie de 700 ans avant Jésus-Christ. Verset 32. Le passage de l'Écriture qui disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui le dépendra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque, l'Éthiopien, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, donc l'Évangile. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau! » Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa, immergea l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans Azo, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Nous voyons par ce récit que le baptême ne concerne que la personne qui a réfléchi et qui a pris une décision personnelle de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur du péché. Se faire mouiller ou même nager dans l'océan n'a jamais effacé les péchés de personne. Le baptême du croyant, le baptême du non-croyant n'existe pas. Seulement la personne dont les péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ a le devoir et le droit de se faire immerger au nom de Jésus. C'est pour cela que nous disons le baptême du croyant. Du croyant. Croire dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc, je vais lire dans ma Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, où Paul définit très directement l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 1, puis je vais lire à partir du verset 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je saute au verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est-à-dire, les Écritures avaient prophétisé ces choses-là, et c'est exactement comme c'était prophétisé que cela a eu lieu. Verset 4. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, comme avait été prophétisé. Et, au verset 5, il est apparu à Cephas, puis aux 12, verset 6, ensuite il est apparu à plusieurs de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, etc. Donc on voit bien que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est l'évangile. Paul, devant le roi Agrippa, Paul a résumé son message apostolique complet. Dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, Paul a dit, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Puisque le message apostolique contenait ces trois éléments, notre message aussi doit avoir ces trois éléments. La repentance, la conversion et la vie chrétienne qui en découle. Nous sommes pécheurs et cela se manifeste d'innombrables façons. Car nous avons une nature pécheresse. Jésus dit dans Jean chapitre 16, « Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Consolateur, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas en moi. » C'est ça que Jésus a dit. Par diverses moyens, mais principalement par la parole de Dieu, le Saint-Esprit amène une personne à une prise de conscience concernant ses propres péchés dans le but de persuader celle-ci à croire en Jésus-Christ pour que ses péchés soient effacés. D'ailleurs, le verset dit « Ne pas croire en Jésus-Christ est un péché ». Le manque de foi en Jésus-Christ est l'incrédulité. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, au verset 8, nous lisons que les incrédules, parmi d'autres choses, les incrédules auront leur part dans les temps ardents du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Avant, j'étais non-croyant. Tout le monde et non-croyant avant de devenir croyant. Avez-vous pris le temps de réfléchir à votre éternité? Être condamné aux peines éternelles dans cet étang ardent de feu. Le fait de se voir pécheur, coupable, condamné pour l'éternité, devrait susciter en vous le désir de changer votre façon de penser quant à votre vie. Pourtant, Beaucoup de personnes, en se voyant coupables, s'enfoncent encore plus énergétiquement dans leurs œuvres inutiles. D'autres deviennent bouddhistes, musulmans, témoins de Jéhovah, mormons, etc. Mes amis, Dieu nous voit comme un berger voit ses brebis. Dans Marc chapitre 6, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, je lis que la moitié du verset. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ceci montre l'idée que l'humanité est perdue. Sans Christ, nous sommes actifs, religieux, insouciants des dangers, mais éloignant de plus en plus du berger. Jésus, c'est lui le bon berger. On va lire ce qu'il a dit dans Luc chapitre 15, si vous voulez tourner dans vos Bibles, Luc chapitre 15, versets 4 à 7. Luc chapitre 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon brebis qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, les propres justes ne voient pas le besoin de repentance. Ce mot « repentance », ce mot « repentance » signifie un changement de pensée. C'est la réalisation que l'on est perdu. On est sur la mauvaise route. Dans Marc chapitre 6, au verset 12, les disciples de Jésus sont partis prêcher la repentance. Ils ont prêché « Vous êtes sur la mauvaise route !» La repentance, c'est d'abandonner, de lâcher prise de ce qui était considéré important auparavant. La religion, la drogue, l'athéisme, n'importe. Personne ne peut être sauvé en gardant leur ancienne espérance. L'objectif de la repentance est de croire en Jésus-Christ. Quand moi, j'ai enfin réalisé que j'étais perdu, je me suis tourné tout de suite vers Jésus-Christ. La Bible utilise plusieurs expressions qui veulent toutes dire la même chose, mais qui ont des petites nuances. Les voici. La repentance et le pardon des péchés. Arrive à la repentance. Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces phrases focalisent sur le salut par la foi en Jésus-Christ. Dieu accorde le pardon des péchés et la vie éternelle à celui qui croit en Jésus-Christ. Parfois, nous entendons l'expression « se repentir de ses péchés ». Une fausse idée attachée à cette expression est de croire que par la pénitence, vous rachèterez vos péchés. Impossible. Une autre fausse idée attachée à cette expression est de croire que grâce à votre repentance, vous ne pécherez jamais plus. Encore impossible. Mes amis, nous sommes profondément pécheurs. Aucune pénitence, ni la repentance, ni la conversion ne peuvent jamais signifier l'abandon total du péché. Car seule la mort physique peut nous couper de notre nature pécheresse humaine qui est à l'origine de nos péchés. Nous avons besoin du pardon et de la purification. Le pardon et la purification sont en Jésus. L'idée correcte concernant cette expression, se repentir de ses péchés, est de comprendre que vos péchés vous rendent coupables et que pour les racheter, il fallut nécessairement que Christ meure sur la croix pour vos péchés. Ainsi, le changement de pensée, la repentance en ce qui concerne le péché est ceci. Ne plus croire que le péché soit bien ou que le péché soit acceptable, mais comprendre que le péché est mal et que le péché est la cause de la mort de Jésus. Avant, vous avez peut-être même cru avoir le droit à pécher. Vous avez eu tort. Jamais Dieu n'a autorisé personne à pécher. Jetez cette idée-là dans la poubelle. Un de vos péchés est de ne pas croire en Jésus-Christ. Dieu attend, même plus, il commande que vous croyiez en son Fils. Nous lisons dans Actes chapitre 17, le verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, en parlant du Seigneur Jésus. La repentance, proprement dit, est seulement le changement dans vos pensées. C'est l'idée d'abandonner vos anciennes pensées afin de pouvoir accepter les pensées de Dieu. Il faut lâcher toutes vos fausses espérances afin de pouvoir prendre la main de Jésus, afin d'accepter le secours que Dieu vous offre en Jésus-Christ, il faut abandonner toutes les autres choses. Pourquoi? Jésus est le seul chemin. Jésus a même dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a aussi dit dans Jean 8, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voici un exemple de la repentance et la foi, une véritable conversion. C'est la conversion du brigand, d'un de ses malfaiteurs, sur la croix à côté de Jésus. Je vais vous lire dans 3 évangiles. Donc, je vais lire plus dans l'évangile de Luc, chapitre 23, et je commence avec le verset 33, mais je vais sauter aux autres évangiles. Luc, chapitre 23, et je lis verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha, ils crucifièrent Jésus là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Matthieu 27. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de Jésus et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié à Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Aussi dans Marc chapitre 15, que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Mais regardez ce qui arrive un peu plus tard. Donc on retourne dans Luc chapitre 23, mais on va lire au verset 39. Luc chapitre 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ceci est un exemple bien clair de la conversion, le brigand. Il était condamné. Dans un premier temps, avec l'autre criminel, il se moquait de Jésus. Puis, cet homme s'est rendu compte de sa condamnation devant Dieu, la repentance. Enfin, il eut confiance en Jésus, la foi. Le brigand s'est repenti par un changement évident de ses pensées, sans aucune œuvre ni mérite, il a invoqué le nom du Seigneur Jésus par la foi. Il a changé ses pensées et il a cru en Jésus. Voilà une conversion complète. Un homme coupable et condamné se repent et invoque le salut par la foi en Jésus-Christ. Bien que la foi en Jésus-Christ soit l'objectif dans l'évangélisation, la conversion du péché, la conviction du péché et la repentance doivent obligatoirement avoir lieu dans la pensée de la personne qui écoute avant qu'elle puisse arriver à la décision personnelle d'invoquer le salut par la foi. Exactement comme nous venons de voir ici avec ce brigand. Ainsi, Nous arrivons maintenant à l'objectif, la foi ou la confiance en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est exclusive. Comme un footballeur qui signe un contrat pour jouer avec telle équipe, le footballeur joue exclusivement pour cette équipe. La foi en Jésus est totale. Comme Philippe a dit à l'Éthiopien, si tu crois de tout ton cœur, la foi en Jésus-Christ est le repos dans la confiance. Comme la confiance d'un enfant qui saute dans les bras de son père et qui s'y blottit. Et puis la foi en Jésus-Christ est l'absence. L'absence du doute, de la crainte, de la peur, de l'incrédulité, et de toute autre espérance. La foi, c'est de laisser Jésus seul s'occuper de ton salut, sur la base de son œuvre dans l'Évangile. Nous lisons dans Romains chapitre 10, donc si vous voulez, vous pouvez tourner dans Romains chapitre 10, nous allons lire à partir de la fin du verset B, fin du verset 8. Romains chapitre 10, seconde moitié du verset 8. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, ce n'est pas une parole d'œuvre, c'est une parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs, les Grecs, donc pas de race, pas de nationalité, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur. Qui est le Seigneur? Cette phrase que Paul a citée en verset 13 vient de l'Ancien Testament, dans le petit livre de Joël, chapitre 2, verset 32. C'est la moitié du verset. Et là, dans Joël 2, 32, nous lisons cette phrase. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et Paul a cité, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le Seigneur signifie reconnaître la divinité de Jésus-Christ, qu'il est l'Éternel de l'Ancien Testament, le Dieu créateur. Rappelez-vous, l'Éthiopienne a confessé, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. » Dans Jean, chapitre 5, les ennemis de Jésus voulaient le lapider, car Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même l'égal de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Oui, Jésus-Christ est Dieu, la seconde partie de la Trinité. Quand on croit en Jésus, le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit habiter dans le croyant. Ceci signifie que, dans la présente, dans la personne du Saint-Esprit, la Trinité vienne résider dans le croyant. Ceci est une transaction spirituelle, complexe et éternelle, opérée par Dieu lui-même. C'est le salut. C'est la nouvelle naissance. C'est la promesse, la preuve et le gage de votre héritage éternel dans le paradis céleste et aussi le pouvoir ou l'autorité de vivre la vie chrétienne ici-bas. Rappelez-vous le message de Paul quand il expliquait ce qu'il fait, ce qu'il enseigne devant Agrippa. La repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. La conversion, le salut, est suivie par une vie chrétienne. Certes, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Ceci signifie que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire verset 10 et aussi chapitre 4, verset 1. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je vous exhorte donc, moi, Paul, donc le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Notez le « pour » et le « afin que ». Ces mots disent à quelle fin Dieu vous a sauvé. Pour la vocation. Il nous a appelés à la vie chrétienne et à la demeure éternel. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 et 17, la Bible dit que Dieu vous sauve pour que vous viviez non pas pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une chose invisible est reconnue par son effet. Dieu est invisible. Et pourtant, nous croyons en lui grâce à ce qu'il a fait. Romains chapitre 1, versets 19 à 21 dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour tous. » Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, les effets, ce qu'il a fait. Les non-croyants sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oui, comme Dieu est invisible, eh bien la foi aussi est invisible. Quand on croit, on est sauvé. Le salut est une réalité spirituelle invisible dans le cœur. Personne d'autre ne le sait. Comment la Bible conçoit-elle la manifestation de cette foi invisible, d'une foi réelle? Je retourne dans Romains chapitre 10, chapitre 8. c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cette phrase signifie, cette dernière partie de phrase signifie que le croyant va avouer ou reconnaître ouvertement avec sa foi qu'il a reçu le salut, qu'il croit en Jésus-Christ. On manifeste la foi, donc, en la confessant, avouant, affirmant de la bouche. Il faut que la personne concernée l'exprime de son plein gré. D'abord par la voix, puis par l'acte. L'Éthiopien a confessé sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis, il s'est fait baptiser. Philippe et l'eunuque, tous les deux, sont descendus dans l'eau et Philippe l'a totalement immergé. C'est-à-dire, il a mis sous l'eau. Donc, voici les façons à manifester votre foi. Premièrement, par l'immersion du croyant, le baptême. Tout de suite, après sa conversion, Paul s'est fait baptiser. Puis, Paul a passé 3 ans en Arabie pour renouveler ses pensées anciennement juives intégristes en pensées chrétiennes. Le brigand, s'est-il fait baptiser? Non, le baptême ne sauve personne. Le brigand, est-ce qu'il a eu un changement de pensée? Oui. A-t-il invoqué par la foi le Seigneur Jésus-Christ? Oui. A-t-il fait des œuvres de bienfaisance par la suite? Non, il est mort. Le brigand est mort et il est allé ce jour même au paradis, puisque Jésus, en mourant pour les péchés du monde entier, avait effacé tous les péchés du brigand. Pour nous, nous devons manifester notre foi par une vie chrétienne. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est logique. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est ça que Paul est allé faire en Arabie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous manifestons notre foi aussi, bon, premièrement donc par le baptême, mais aussi par l'amour de la parole de Dieu, par la pratique de l'amour de Dieu, par la pratique de la parole de Dieu et par l'amour pour les autres et en particulier l'amour pour les autres croyants. Jésus n'a pas suggéré, il a commandé, aimez-vous les uns les autres. Et puis ailleurs, il a dit, aimez vos ennemis. Voilà donc le cheminement d'une nouvelle naissance. Étant convaincus de notre culpabilité, nous lâchons toute autre espérance et nous nous confions entièrement en Jésus-Christ. La repentance et la foi en Jésus-Christ, c'est le salut. Puis, le nouveau croyant va apprendre à vivre la vie chrétienne. Mes amis, comme vous savez, nous sommes tous pécheurs, perdus, séparés de Dieu. Il faut naître de nouveau. Le Saint-Esprit essaie de convaincre toute personne de ses péchés, de son besoin du salut et de son manque de foi en Jésus-Christ. Il faut abandonner vos anciennes espérances. Par la foi, il faut accepter le pardon et la vie offerte en Jésus-Christ par l'Évangile. Sur cette base, non seulement Dieu vous sauve, mais aussi il vous donne son Saint-Esprit qui vous rend capable de vivre votre nouvelle vie de chrétien selon sa parole. Avez-vous cru en Jésus-Christ? Aujourd'hui, peut-être le jour de votre salut. Je voudrais finir ce verset que j'ai lu tout à l'heure. Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On est tous perdus. Chacun fait ce qu'il veut. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le Christ, l'iniquité de nous tous. Il a payé pour tous nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine. N'oubliez pas de vous contacter les uns les autres, de ne laisser personne dans l'isolement absolu. Hein? Il faut téléphoner les uns les autres sur les divers moyens. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.